Radio Classique, grand témoin.
On l'appelle affectueusement et Atiti, le leader charismatique et qui aime Tshisekedi wa Mulumba, homme politique et président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, et celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Etienne Tshisekedi, merci de nous recevoir chez vous. Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de votre personne, de votre combat politique, mais vous nous direz aussi pourquoi vous avez décidé cette fois-ci de vous présenter aux élections de novembre 2011. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une brève biographie de vous. Nous savons que vous êtes né un certain 14 décembre 1932 à Kananga. C'est là où vous grandissez?
Oui, je suis en première des années études primaires, que j'ai terminé dans une mission dans le territoire Ndemba, toujours au Kassai occidental, la mission qu'on appelle catholique et Kabulanga. Et c'est de là qu'on m'a envoyé à Kamponde, au collège des humanités latines, où j'ai fait 7 ans. On commence par une 7e année préparatoire, après on fait 6 ans d'études, après lesquelles j'ai été envoyé à l'université de Lannion, qui venait d'exister, disons, 2 ans avant moi, au sens de la 3e promotion. Et c'est là où on devait aussi commencer par la pré-universitaire générale, parce qu'il était supposé que les congrès, le régime d'études de congrès n'était pas assez fort. On devait toujours le renforcer par une année supplémentaire, qu'on appelait pré-universitaire générale. C'est après la pré-universitaire générale qu'on commence les candidatures, donc on commence de véritables les études, donc vous m'étiez destiné à faire des études de droit.
Vous êtes docteur en droit de l'université de Kinshasa, l'Ovanium à l'époque. Il faut signaler aussi que vous êtes le premier Congolais à sortir de cette université avec un titre de docteur en droit. Pourquoi avoir choisi de faire le droit?
Parce que c'est mon goût. J'ai toujours aspiré à faire le droit, à pouvoir défendre les gens comme avocat dans les procès, devant les tribunaux. Et je me suis toujours senti avoir cette passion-là sans avoir d'autres prétentions d'ailleurs, parce qu'en faisant ces études de droit, j'ai vu que ça me conduisait vraiment à défendre la cause maintenant, à défendre la cause du peuple congolais, donc la cause des faibles, la cause des malheureux, donc pour toujours de sortir de leur misère, faire en sorte qu'ils puissent aussi connaître le bonheur comme tout le monde.
Vous aviez déjà des ambitions politiques lorsque vous étiez à l'université?
Oui, j'avais des ambitions politiques. La preuve, c'est que quand nous avons terminé les études, avant de terminer les études, en 60, quand M. Mobutu a fait son premier coup d'État, neutralisant le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, il a fait appel aux étudiants universitaires qu'il a nommé le titre de commissaire général et commissaire général adjoint. J'étais commissaire général adjoint à l'université. Justice avec M. Léo Marcel comme commissaire général titulaire. Donc, déjà à ce moment-là, avant même qu'il ait terminé mes études, vous voyez que j'ai embrassé déjà un peu la carrière politique.
Parlons de votre parcours politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique?
Oui, toujours le même sentiment. Il faut que je sois parmi ceux qui défendent le peuple congolais dans toute situation où ils ont besoin, où il a besoin de moi. Toujours la défense des faibles, toujours la défense de ceux qui ont besoin d'être défendus pour pouvoir sortir des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent.
Depuis 1958, vous militez dans le mouvement national congolais, MNC.
C'est le parti donc, dans lequel moi j'ai commencé à militer, mais tout en étant toujours étudiant. Alors ce parti, malheureusement, à un certain moment, ils ont un peu temps pour dire avec précision. Je peux dire que c'est né parce que les leaders se sont disputés. Moi, j'étais derrière le leader Karim Zarbert, qui s'est disputé avec M. Patrice Lumumba. Donc, ça fait que, comme les leaders se sont disputés, se sont divisés, le parti était bien obligé aussi de se diviser derrière les deux leaders. C'est pour ça que j'ai été dans le MNC et le Karim Zarbert.
Vous avez choisi d'aller chez Karim Zarbert parce que c'était votre frère?
Oui, ben, je me sentais plus près de lui, et puis, comme j'avais des ambitions de faire la politique, je savais que quand je ferais ma candidature comme député, il était de mon coin, et c'est lui qui pouvait me défendre pour que je puisse être élu comme député, donc c'est tout à fait normal.
Parlez-moi un peu de vos relations avec Patrice Emery Lumumba, vous le connaissez personnellement?
Personnellement, oui, je le connaissais, mais on ne peut pas dire qu'on se connaissait vraiment, rien, parce que c'était un grand leader, comme je vous disais. On a commencé avec lui dans le MNC. Quand il tenait leur métier, quand il sort ça, il assistés, c'est comme ça que je le connaissais. Vous aussi, je peux dire qu'ils me connaissaient, mais je n'ai pas vraiment une connaissance profonde, comme on appelle.
Votre nom est cité à côté de celui d'Albert Kalonji dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Non, non, mais c'est à ceux qui le citent qui doivent venir, c'est une des reproches là-dedans. C'est qu'ils citent son prêtre comme un adversaire politique. Je vous ai dit que c'était M. Mobutu qui avait fait son coup d'État, en fait, un coup d'État qui ne portait pas ses noms, qui avait neutralisé les institutions légales, la présidente de la République et le gouvernement légal, et qui avait fait appel aux jeunes étudiants universitaires pour pouvoir, comme il disait lui-même, pour pouvoir diriger le concours en attendant que les hommes politiques s'entendent. Ceux qui citent mon nom, je veux dire que parce qu'ils étaient parmi ceux qui dirigeaient le concours, provisoirement.
Mais... Vous n'y êtes pour rien, vous faites ça.
Allons-y, je ne vois pas comment Kalonji était venu à sa fédère. On peut mêler Kalonji parce qu'on savait que c'était son adversaire pour tirer en guerre des autres. Au moins, on n'a pas de preuves.
Nous sommes en 1965, c'est le général Mobutu qui arrive au pouvoir. Vous avez occupé plusieurs fonctions pendant la Deuxième République, mais plusieurs fois aussi vous avez été arrêté pendant cette Deuxième République. Parlez-nous un peu de vos relations avec le maréchal.
Oui, je venais justement d'être élu aux élections de 65 comme député, et nous nous attendions à ce moment-là, c'est que la démocratie était une voie prise, comment ça fonctionne normalement. J'étais à ce moment-là, une partie de l'MNC, comme on dit, était dans une formation plus large qui était Conaco, Confédération nationale congolaise, qui était dirigée par M. Moïse Sombé, qui à ce moment-là, nous étions un parti majoritaire, mais au lieu que M. Kassavubu désigne le premier ministre dans notre parti, qui était majoritaire, il a préféré désigner M. Kimba Evariste, qui était le parti minoritaire. Nous avons dit après que c'était sous l'influence de Mobutu, parce que Kassavubu était très influencé par Mobutu. Mobutu avait déjà joué depuis longtemps, son jeu en ce ça, je ne le sais pas. Or, comme nous étions dans la majorité, qui va présenter son gouvernement au Parlement, nous avons bien sûr rejeté. Alors, normalement, classiquement, parce que nous suivions les pratiques politiques que nous avons montrées à la Belgique, normalement, M. Kassavubu devait automatiquement prendre le formateur d'un parti de la majorité. Encore une fois, M. Kassavubu, sous l'influence de Mobutu, et il s'entête, il représente le même Kimba, qui est humanitaire, que nous avons pu apprendre après que c'était Mobutu qui était déjà prêt à faire son coup d'État, mais qui était là à trouver une justification dans ce qu'il appelait crise politique. Parce que le Parlement, deux fois, a rejeté le gouvernement qu'on présentait, donc il y avait crise. Et voilà, c'est pour ça que je vois le 4 novembre 65, qu'il profite de ça, c'est ça, disons, de crise pour prendre le pouvoir et déclarer que les hommes politiques sont défaillants et ils prennent le pouvoir en attendant qu'ils s'entendent. Et comme ça, ils prennent pour longtemps le pouvoir politique du pays, la direction du pays. À ce moment-là, nous avons au Congo 24 provinces. Il a demandé donc que chaque province lui présente une personne pour être son ministre. Alors, ma province, qui est Kissis Kasai, à ce moment-là, m'a présenté. C'est comme ça que je suis entré dans le gouvernement de M. Mobutu. Sur le sens de la colonel de son option, il m'a attribué la fonction du ministre de l'Intérieur, dont il était le premier ministre de l'Intérieur de M. Mobutu dans le gouvernement de 1965.
Intérieur et affaires coutumières.
Intérieur et affaires coutumières, voilà, c'est bien de me compléter comme ça.
Et après, vous avez occupé de la fonction du ministre de la Justice.
La Justice, après 1966, j'ai quitté l'Intérieur pour la Justice. J'ai fait seulement un an après le recrutement comme ambassadeur au Maroc.
Vous étiez proche quand même du maréchal. Vous êtes co-signataire de la lettre de presse parlementaire adressée au président de la République. Après toutes les fonctions que vous avez occupées.
Oui, ce que je me rappelle très bien avoir fait, c'est que quand nous sommes comme les États-Unis intérieurs, M. Mobutu devait aussi élaborer la constitution de la République sur laquelle devait être basé son régime. Mais Mobutu est vraiment un malin que nous avons fait une constitution très démocratique, qui était vraiment la démocratie, mais qui passait que dans la pratique, il n'accepte pas qu'on applique ce qui était prévu dans la constitution. C'est pour ça que nous avons fait des constitutions, en fait, pour tromper l'opinion, particulièrement l'opinion occidentale. Alors, parce qu'on m'avait demandé à l'aide parlementaire, ça c'était un autre problème, c'est-à-dire en 1977, il avait organisé, après les critiques de partout, particulièrement de l'Occident, candidat, il était obligé d'organiser les élections, à donner à ces élections une apparence de démocratie. Comme toujours, vous voulez toujours donner l'impression qu'il fait quelque chose qui fait la démocratie pendant le président du contraire. Alors, ils étaient encore une fois élus dans cette législative-là, mais la population ne voulait plus le pratique de Mobutu. Pour être élu, il fallait effectivement qu'on critique tout ce qu'on vivait comme Mobutisme. Il fallait critiquer, c'est comme ça que la population aimait notre discours et nous avait fait confiance pour nous élire une deuxième fois. Et là, j'aimerais quand même dire une chose pour montrer l'esprit de Mobutu. Une fois que ça sort, je lui demande une audience, il m'accorde. La première chose que j'ai lui, je lui ai dit que, vous savez, monsieur le président, sur moi, pour être élu, j'ai dû baser mon discours contre le régime, contre tout ce que vous faites ici là. C'est pour ça que la population m'a fait confiance. Il s'est tellement exprimé avant. Moi, je dis oui, c'est ça. Moi, je dois oublier la vérité. Et comme toujours, cet homme-là avait un esprit tourné toujours vers le mal. Il avait cru que quand je lui disais ça, c'était une manière pour moi de lui demander un peu une fonction, rémunérée. Et voilà, une semaine après, il m'appelle, il me nomme président du conseil d'organisation de la compagnie RSI, la compagnie nationale. Donc, c'est pour vous dire que il voyait moindre chose, quand vous voulez lui dire la vérité pour lui dire, là, je suis un baba, au lieu de corriger ce que vous lui reprochez, non, il vous corrompt. En fait, c'est un moyen pour lui de corrompre tout le monde.
Vous avez succombé à cette corruption?
Mais non, je ne suis pas tombé parce que justement, quelques temps après, nous avons décidé, de bon, cette fois-ci, il ne nous aura plus parce que la Constitution nous reconnaît tous les droits démocratiques et lui nous empêche de le faire. Mais cette fois-ci, comme nous avons arraché notre qualité de député par en disant la vérité à la population, nous allons appliquer ce qui est dans la Constitution. Voilà pourquoi nous avons adressé cette lettre de 52 pages par des textes parlementaires, donc en décrivant la situation sociale particulièrement misérable que vivait la population, c'est cela qui a déclenché sa colère et nous avons eu.
Vous avez été emprisonné.
Nous avons eu les emprisonnements. La première fois, nous étions condamnés à 15 ans de prison. Quand nous sommes sortis, nous avons dit bon, maintenant c'est le moment, en 82, nous avons lors de 15 février décidé de créer notre parti. Tout ça, encore une fois, dans l'esprit de la Constitution de ce moment-là, qui le connaissait, donc le parti second qui existait au Congo, deux partis, que nous ne s'acceptions pas, nous avons imposé ça.
Donc c'est depuis 82 que l'UDPS existe. Parlons de l'UDPS, l'Union des démocrates pour le progrès social. Comment se porte le parti?
Le parti a traversé d'abord des moments très difficiles, comme vous l'avez dit, où nous étions donc les fondateurs, les présidents parlementaires, mais nous avons encore opté plus de l'autre pour pouvoir un peu respecter un peu la géopolitique. Et le parti socialement est représentatif de l'opinion congolaise. Nous étions à peu près dans les 30 fondateurs. Mais comme nous étions soumis à la répression, notre vie était partagée ou en prison ou en rélégation. Et voilà les deux régimes qui ont utilisé notre vie. Et de cette manière-là, jusqu'en 91, je crois, quand nous avons créé la Conférence nationale souveraine, où nous avons fait un travail merveilleux. Nous avons créé plusieurs commissions, dont la commission de bien Badaki, dont la commission de la voisine, et on a créé la commission vérité et réconciliation, puis le bien Maraki. Donc la conférence a fait un travail merveilleux pour non seulement le présent et l'avenir du pays. Mais cette initiative n'a jamais été appréciée par M. Mobutu, qui a toujours trouvé que ce n'est pas la conférence, c'est parce que la conférence n'est même toujours pas élire un chef de l'État pour prendre la place à Mobutu, qui voulait rester présent à vie, n'avait jamais accepté ça. C'est comme ça que le 16 février 92, je crois, il avait soldé la Conférence nationale. Et c'est comme ça qu'il y a eu la manifestation des chrétiens. Tout le monde était révolté. Et nous étions bien obligés de réouvrir la Conférence nationale. Et c'est pendant cette conférence qu'il y a eu l'élection réélire. Comme vous tenez à rester là-bas, on a dit bon, on le laisse, mais on va élire un premier ministre pour que la Constitution, à ce moment-là, elle reconnaissait tout le pouvoir réel étant le même du Premier ministre. Parce que l'autre ne voulait pas, mais on allait lui vider complètement de la substance. C'est comme ça qu'on a d'abord fait une Constitution et destiné beaucoup de pouvoir au Premier ministre. On a procédé à l'élection de ce Premier ministre-là et il était élu avec plus de 50% de voix contre mon candidat de Mobutu, qui était M. Thomas Tanga.
Et le président Mobutu n'a pas reconnu votre élection à la Conférence nationale souveraine et même le gouvernement que vous avez formé.
Il a reconnu, ce n'est pas le mot. Il a reconnu parce qu'il ne pouvait rien faire. Parce que c'était, comme je vous ai dit, c'était en ce moment-là, c'était un peu la pratique. Il se faisait dans toute l'Afrique, ça avait commencé par le Bénin, ça avait été au Congo, au Brazza, etc. Mais, disons simplement qu'il était prêt, avec tous les moyens qu'il avait, de mettre le bâton dans les roues à ce gouvernement. C'est comme ça que mon gouvernement n'a fait que 3 mois. Donc, il savait mettre le bâton dans les roues, par exemple. Il pouvait également accepter que j'ai un regard sur la Banque nationale, un regard sur l'armée, etc. Donc, des choses comme ça, il parlait bien de faire. On ne peut pas dire qu'il ne reconnaissait pas parce qu'on ne lui a pas demandé de reconnaître ou pas. Il devait s'incliner devant cette réalité-là. Dans cette confusion-là, en quelque sorte, on est arrivé jusqu'à 96, hein, quand s'est annoncé M. Kabila et la FDEV est venu chasser Mobutu et imposer encore un régime plus sanguinaire que celui de Mobutu.
Vous avez critiqué ce régime, vous avez encore une fois été emprisonné.
J'étais relégué, j'étais une partie emprisonnée, mais relégué dans mon village pendant 5 mois. Après, bon, je suis revenu et je continue toujours à critiquer ce régime-là parce que mon parti, comme vous le voyez là, ils n'ont pas la démocratie et le progrès social, bon, l'UDPS, comme le nom le dit, un parti qui se bat pour la démocratie et pour l'état de droit au Congo.
Si c'est un parti qui se bat pour la démocratie, il y a eu quand même beaucoup de départs dans l'UDPS. Je peux citer le cas de M. Kibata, M. Liao avec qui vous avez travaillé, Tchungwa Kumaza, tous ces gens, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a une guerre des clans dans l'UDPS.
Des clans? Vous avez cité M. Kibata. Et celui qui était dans ce président?
Mais il est parti.
Ah non, je sens, il était parti pour autre chose que pour les clans. Il est parti parce qu'il fallait tenir. Tout ça, je vous dis que c'est dans des conditions difficiles de se battre contre une dictature comme celle-là. Il fallait tenir, il fallait accepter de bouillir de fer, etc. Il se trouve dans les prisons et tout le monde n'avait pas de courage de le faire. C'est comme ça que de un à un, il partait. Ce n'est pas du tout une question des clans, c'est chose. Ça n'a
rien à voir avec le tribalisme au sein des UDPS.
Non, ça n'a rien à voir avec. Comme je vous l'ai dit, notre supprimé société de faire en sorte que, ajouter à ces 13 parlementaires, ces premiers fondateurs, copier d'autres pour justement que la direction de l'UDPS soit représentative de la République démocratique du Congo, de son appellation des alliés. Donc, les gens partaient par ce. C'était lui, Stan de Kabila aussi, s'ils pouvaient rester encore sans co-rester, ils sont partis avec Kabila, et c'est comme ça qu'après Kabila, père et fils, nous sommes restés que ce soit 3 ou 4 comme fondateurs. Donc, c'est comme ça que l'UDPS a connu cette vie-là. Il était difficile, il fallait affronter toutes ces dictatures, c'était là que pour se maintenir au pouvoir à vie.
Mais aujourd'hui, comment se porte l'UDPS? Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de l'UDPS pendant que vous étiez en Europe, mais vous n'avez jamais rien dit à partir de l'Europe concernant tout le problème que l'UDPS rencontrait. Il y avait 2 ailes au sein de l'UDPS, et le président ne s'était jamais exprimé par rapport à ça. Pourquoi?
Vous n'avez pas suivi, c'est normal. Vous avez autre chose à souhaiter que vous occupez de l'UDPS. Quand je suis arrivé ici chez nous, j'ai organisé le congrès, et c'est pendant ce congrès que j'ai d'abord trouvé que ce qu'on avait, comme on appelait une division, deux divisions, j'ai trouvé cette division tout à fait normale. Ça, c'était une sorte de guerre de succession. C'est normal que les gens, après une absence prolongée d'un président, qu'on disait malade, qui allait revenir dans le cercueil, c'est normal qu'il y ait un peu la chance de succéder, c'est tout à fait humain. Mais à mon retour, il est mis fin à tout ça, et il n'y avait pas de raison de se séparer. Mais en plus, en dehors d'un groupe que nous appelons jusqu'ici le nom de groupe des lignes, dirigé par M. Kabou Belichika, celui-là n'était pas un groupe qui était comme les autres. Cela était un véritable cheval de soie que, comme toujours, le régime, que ce soit de Mobutu, de Kabila Père et tout ça, trouve toujours le moyen d'embêter l'UDPS, créer 2 ou 3 UDPS pour que l'UDPS se trouve déjà lui lors des élections. C'est comme ça que l'année 2006, ils avaient créé l'UDPS présidée par le fils Kibasa et c'est passé par les filles, voilà, ils ont créé ce groupe-là de Belgica. Mais comme nous disons, c'est une autre trahison, ils ont trahi la sorte, mais on ne les a pas exclus.
Mais eux, ils voulaient exclure des idées comme ça. Il y a quelques temps, on a eu un communiqué du groupe des Réunis qui vous excluait du parti.
Ça, il ne faut pas m'associer à des choses comme ça. Ça ne demande pas aujourd'hui, ces aujourd'hui-là. Au lieu de les exclure, je les ai publiés en quelque sorte. J'ai dit qu'ils pouvaient venir au parti, mais en commençant par la base. Ils n'ont pas voulu, et le groupe n'a pas voulu, et recommencer par la base. Et c'est comme ça qu'ils se sont autosuivis eux-mêmes, et qu'ils venaient en dehors de tout ça, en disant toutes les bêtises que vous évoquez maintenant.
Vous êtes de retour au pays après 3 ans d'absence pour vous présenter aux élections qui auront lieu au mois de novembre 2011, c'est au moins d'une année. Quelles sont les motivations qui vous poussent maintenant à vous présenter aux élections? Parce qu'en 2006, vous avez boycotté les élections de 2016.
Non, bien sûr, comme je vous dis, nous sommes là pour instaurer la démocratie au Congo et l'état de droit. Mais nous avons constaté que nous étions tous en Afrique du Sud. Nous avons entendu comme dialogue intercongolais avec des objectifs. Entre autres, vous avez dit d'abord que les belligérants qui sont maintenant au pouvoir, qui devaient déposer les armes, donc insoumis la paix au Congo, un de leurs objectifs serait de mettre sur pied une véritable armée nationale congolaise, c'est-à-dire brasser toutes ces anciennes milices privées de tel ou de tel groupe, en fait une armée nationale qui assure la vraie sécurité à travers tout le pays. À ce moment-là, on pouvait penser aux élections, à commencer d'abord par faire un recensement général, parce que depuis l'indépendance, les Congolais ne savaient pas combien ils étaient, un recensement général pour identifier l'identification des Congolais. Parce que, en attendant, il y avait énormément d'Africains qui étaient entrés sur notre territoire. Il fallait les identifier qui étaient congolais, qui n'étaient pas. Après, bon, on pouvait procéder à l'enrôlement, puis passer d'abord aux élections locales. Tout ça, c'est après les accords de Sensiti. On ne peut passer pas aux élections locales. Après seulement, on peut passer aux élections législatives et présidentielles. Or, avec ce l'entourage de la province de la communauté internationale, tout cela avait été visé. Ni l'armement de l'armée nationale n'était pas formé. D'après, vous avez vu, quand on a publié les résultats, comment des ministres, des membres de Kabila se sont attitués. Donc, et voilà, donc ce n'est pas le défi qui peut aller s'habiller dans une histoire comme ça qu'on a fait l'élection qui était une élection mascarade. Nous sommes mis en dehors de ces bêtises-là, nous avons refusé de prendre part à cette coquille-là.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tous les problèmes que vous avez dénoncés en 2006 ont été réglés ou résolus?
Non, ils ne sont pas réglés, mais vous savez même dans quel état se trouve notre peuple, se trouve notre pays. Et comme je dis toujours, oui, il ne faut pas que dedans on m'accuse de non-assistance au peuple en danger. Je me suis dit, non, quelles que soient les conditions, cette fois-ci, on va y aller avec la certitude de sortir le Congo du bourbier où il se trouve au moment. Donc c'est maintenant qu'il faut sortir le Congo du bourbier, ou jamais. Donc c'est pour ça que, quelles que soient les conditions, nous nous engageons à entrer dans ces conditions-là, la sélection.
L'UFS va se présenter à tous les niveaux?
Tous les niveaux.
Vous en avez les moyens?
On a les moyens. Les moyens sur la confiance que nous fait le peuple congolais. Ces moyens-là sont plus forts que les moyens auxquels vous voyez là, les moyens d'argent. L'argent ne va pas jouer dans la prochaine élection. C'est plus fort la confiance, l'engagement de, quoi, au sens bas des Congolais.
Et vous pensez que les Congolais vous font toujours confiance?
Toujours. C'est chaque jour qu'ils me le disent de tous les points. Par tous les moyens, le téléphone, par les ministères, eux-mêmes. C'est tous les jours qu'ils reçoivent les Congolais de tous les points du pays. C'est pour ça qu'ils abordent cette élection avec un moment d'optimisme.
Et vous êtes sûr de remporter cette élection? Et en cas d'échec, va l'accepter les résultats?
Non, il n'y aura pas d'échec d'abord. Il n'y aura pas prendre une hypothèse qui n'arrivera pas. Il n'y aura pas d'échec.
Parlons des alliances. Connais-tu des alliances avec les autres opposants?
Comme j'ai dit à tous ces amis qui sont à la tête du France Parti, je veux dire qu'il n'y avait pas, avant mon retour, aucun parti politique n'était accepté au Congo en dehors du PPD de s'organiser. Donc tous ces partis étaient à l'étagie la plus totale. Et je crois, je conseille à mes amis dirigeants d'autres partis, maintenant que nous avons imposé cette tolérance à ceux qui nous gouvernent, la première des choses que nous devons faire, c'est organiser mon parti. Et voilà pourquoi moi, pour le moment, je suis en train d'organiser mon parti. Et je n'ai pas encore pensé aux plateformes, à tout ce qui arrive de là. Sinon, je pense d'abord à mon parti, auquel je donne priorité. Après, nous allons voir, nous verrons avec qui et comment nous allons nous organiser. D'autant plus que nous avons déjà été victimes de beaucoup de crises. Donc, en attendant ce temps que j'emploie pour m'organiser, c'est le temps aussi que j'utilise pour observer ce qui se dit réellement au courant pour que le moment venu, on puisse effectivement avec eux voir comment on peut faire des plateformes en même temps pour les expérimenter et notamment assurer de bien qu'ils sont opposants.
Pourquoi vous demandez aux autres opposants de soutenir votre candidature?
Les amis derrière vous pour soutenir votre candidature.
Je vais vous demander ça. Je serai mon boutiste, alors je serai de presque un parti. Et tant que c'est la religion aux amis qui sont dans ce qu'ils appellent la dynamique, qui serait du président, allez leur demander, c'est eux-mêmes librement, j'ai appris comme tout le monde, qu'ils sont organisés pour créer cette plateforme.
Comment vous répondez à toutes les personnes qui pensent qui vous qualifient d'éternel opposant et que vous seriez même payé pour ça, pour rester un éternel opposant?
Oui, pour dire tout ce que vous voulez, ça c'est l'affaire. Mais d'après tout ce que vous avez raconté, vous voyez que les dictatures ont duré longtemps. Donc, ma lutte devait durer autant que les dictatures ont duré, il y a un peu rien à faire. J'ai opté pour la non-violence, donc c'est normal, il faut subir la dictature de Mobutu, subir la dictature de Kabila père, subir maintenant la dictature de Kabila fils. Donc c'est normal que la lutte dure longtemps, parce que ma lutte est basée sur la prise de conscience du peuple congolais de sa responsabilité, et voilà, nous croyons que le moment est venu, effectivement, que le peuple congolais prenne sa responsabilité pour assurer son avenir. Donc, c'est comme ça que je vous dis que, immanquablement, nous devons assister à ces prochaines élections.
Monsieur Tshisekedi, la classe politique congolaise est critiquée. On vous accuse, vous, leader des partis politiques, de ne pas souvent préparer des élèves lorsque vous vous sentez fatigué, par exemple, et que les présidents des partis politiques disparaissent avec leurs partis.
Oui, tout ça c'est bien, mais sauf l'UDPS, parce que l'UDPS n'a pas encore disparu jusque-là. Donc, ce sont ces partis que nous appelons les partis de sa poche, ou éventuellement, ils disparaissent avec leur parti, parce que ce sont des partis qui n'en sont pas un. Donc, quelqu'un qui se programme, il a une part vitesse, pendant que derrière lui, il n'y a que sa forme et ses enfants. C'est normal, les gens peuvent disparaître, le parti disparaît. Mais pas l'UDPS, ça ne peut pas être quoi l'UDPS, parce que l'UDPS, voilà, toujours là, en train de parler. Hein. Donc, si vous dites là, n'est pas applicable à l'île de presse.
On a appris que vous préparez votre fils, Félix Tshisekedi, pour votre succession.
Préparer ou pas, mon fils, c'était au bataille de l'île de presse. Un droit au bataille de l'île de presse. C'est normal, quand vous avez disparu, l'île de presse fait partie démocratique. On va organiser son congrès. Ceux qui le voudront poseront l'organisation. Si mon fils la pose, c'est son droit à l'écriture. Et si jamais il est élu, c'est pas lui. Ce n'est pas que le père a choisi son fils. Non, c'est la démocratie. C'est le parti qui nous a mis la balle.
Parlant d'actualité, la CENI a été mise en place. Vous, des fêtes, avez souhaité avoir un poste au sein de cette institution. Malheureusement pour vous, on n'a pas répondu à votre demande. Comment vous accueillez cette mise en place de la Commission électorale nationale indépendante?
Bon, nous sommes habitués à des coups comme ça. Nous n'avons pas été surpris outre mesure. Nous avons fait la veille, comme toujours. Nous nous arrangeons toujours. C'est comme ça que nous avons fait un terrain de lutte en nous adaptant à la situation. Nos amis qui se disent de l'opposition nous ont promis moins merveille qu'ils vont nous donner une place à la CENI. Même le moment arrivé, ils se sont plutôt attirés dans cette place. Mais nous allons faire avec, nous n'avons pas de problème. Tout simplement, nous serons très vigilants, nous ferons tout. Nous sommes une partie qui est sous ensemble du territoire national. Nous aurons des témoins dans tous les bureaux de vote. D'abord, que nous allons former, nous allons voir la semaine prochaine, nous allons ouvrir notre école pour former tous ces témoins, pour former tout agent qui va participer de loin ou de près à l'élection au nom du parti. Donc, nous sommes suffisamment armés pour ne pas nous inquiéter et nous sommes très heureux, c'est le moment de le dire, du discours que le président Moïmounda, le président de la CENI, a tenu. Ça nous a beaucoup apaisé. Tout ce que nous espérons, c'est qu'il tiendra la parole, et s'il tient sa parole, que la CENI soit neutre, nous n'aurons pas de raison de nous inquiéter du tout.
En tendant vers la fin de notre entretien, quel bilan vous dressez de cette législature qui va prendre fin bientôt?
Comme toutes les autres législatures, c'est du négatif. Nous sommes dans un non-état, il n'y a rien, il n'y a que des slogans, sentiers, cinq sentiers, tout ça des slogans. Le peuple ne mange pas des slogans, donc c'est pour ça que nous voulons expédier toutes ces choses-là pour que les choses sérieuses commencent.
Donc il n'y a rien de positif, ça veut dire. Même les routes qui sont en train d'être réhabilitées, pour vous, ça représente.
Réhabilité par rapport aux dépenses qui sont accepter à ce que vous dites là, les autres, on fait un petit tronçon de route, mais il faut voir des millions qui sont dépensés. Donc c'est l'occasion pour eux de détourner énormément d'argent pour ce prétexte qu'ils ont fait d'un lien de politique.
Après 30 ans, presque 30 ans de combat politique, quels sont les objectifs du combat d'Étienne Tshisekedi?
C'est quitter la République bananière où nous sommes depuis beaucoup de jusqu'ici. Nous sommes dans le type de non-État. C'est instaurer un État de droit. Ils ont fait un objectif plus double que ces gens-là. Parce que c'est un État dans ce cadre qu'il faut donner au pays un cadre favorable aux investissements, aussi bien des renseignements que des étrangers, mais qu'un État de droit pour passer tout le monde où il y a une justice, où il y a un combat permanent contre la corruption, contre ce que nous appelons toutes les antivaleurs, toutes les choses qu'on va combattre, ces antivaleurs-là, pour que nous ayons un État, on ne va pas dire le plus parfait, parce que nous ne sommes pas pour le ciel, mais le plus parfait possible, pour que le Congolais puisse se développer au maximum pour son bonheur.
Etienne Tshisekedi, je vous remercie.
C'est à vous que je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant l'opinion congolaise.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Étienne Tshisekedi wa Mulumba, homme politique et président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Merci à Paul Badianiamba qui a assuré la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net, votre site de programme sur la fréquence de la paix.